Merci de participer à Pluriact, atelier de la pluridisciplinarité en acte, au service de la personne vulnérable sur le thème de la précarité. Cet atelier est centré sur la relation de la personne en situation de précarité et les professionnels. Que pouvez-vous nous en dire ?
Donc, tout d'abord, moi aussi, je vais me présenter. Donc, Léo Dumignard, j'ai 34 ans. Je suis creusois d'origine et travailleur social de formation. Mon parcours, parce que je pense que pour comprendre aussi un peu, peut-être cette réflexion autour de la précarité, c'est important que vous puissiez connaître mon parcours. J'ai fait un lycée économique et social. J'ai été élevé dans une famille de, pour du côté de ma mère, de travailleurs sociaux et de personnes engagées politiquement parlant, du côté de mon père. Donc j'ai vraiment été bercé dans cette culture du social depuis mon plus jeune âge. Je ne sais pas si c'est héréditaire, mais en tout cas, j'ai pris un chemin qui est similaire. Donc après mes études au lycée à la Souterraine, je suis parti faire un IUT carrière sociale à Figeac, animation sociale et socioculturelle. Puis à la sortie de cette formation, qui peut-être ne me permettait pas d'aller sur un emploi stable, parce que individuellement aussi on pense à cette précarité, j'ai décidé d'aller plus loin dans les études et d'essayer de rentrer en école d'éducateur spécialisé. Ce qui s'est fait et où j'ai pu faire mes deux années de formation à Toulouse. J'ai décidé, pour des raisons plus personnelles, de revenir sur le département de la Creuse. Et par ce biais-là, j'ai eu plusieurs expériences, dont la première un peu plus longue, qui a été à l'IME La Roseraie, où j'ai pu travailler pendant 4 années en tant qu'éducateur spécialisé. Dans cet accompagnement des enfants porteurs de déficience intellectuelle ou de handicap, on peut rencontrer des personnes, enfin des enfants issus de familles en situation précaire. On en rencontre même une grande majorité. Le handicap n'est pas défini en fonction de sa vie, son taux de ressources, sa situation socio-professionnelle. Mais quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un grand nombre d'enfants suivis dans ce type de structure sont issus de familles précaires ou en difficulté, en tout cas, en termes financiers, d'ordre financier en particulier. Après ce passage en IME, j'ai changé d'expérience. Je suis revenu dans d'autres choix et d'autres envies de vie, des questionnements aussi plus personnels sur des envies de voyage, de découvrir le reste du monde, d'autres sociétés, d'autres méthodes de vie, ce qui m'a permis de tester d'autres boulots, d'autres travails en dehors du secteur social et pour en revenir à une finalité qui, deux ans plus tard, était de revenir à ce travail initial. Différentes expériences, en centre éducatif fermé, en ITEP, vraiment en lien souvent avec le public adolescent, en priorité. Puis une intégration au comité d'accueil creusois, et en particulier sur le CHRS. Aujourd'hui, après 5 ans sur ces dispositifs, ça fait maintenant 3 ans que j'occupe un poste de chef de service, où je suis en fin de formation, d'ailleurs, actuellement, à Poitiers, à l'IRTS. Donc voilà, une continuité sur un public qui a maintenant totalement évolué. C'est un public très éclectique. On accueille des personnes de 1 mois pour la plus jeune, jusqu'à 80 ans pour les personnes les plus âgées. Les personnes qu'on accueille, elles ont tout un point commun, c'est qu'à un moment donné, elles n'ont plus de toit sur la tête. L'idée de pouvoir accompagner ces gens, ces personnes en tout cas, c'est pour moi individuellement, c'est de permettre à ces personnes de rebondir, d'être une béquille, un tampon à leurs difficultés du moment pour pouvoir être heureux et pour pouvoir mener une vie respectable pour eux en tout cas, ce qu'ils se donnent comme respectable. La précarité pour les personnes qu'on accompagne aujourd'hui et que j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours, elle est différente des unes des autres. Pour certaines, ça va être une précarité due à des, comme on l'a dit tout à l'heure, difficultés intellectuelles, physiques, liées à un handicap. Pour certaines, la précarité va être plus une précarité plus économique, sur la difficulté de trouver un emploi, sur le manque de formation, toutes ces difficultés-là. Pour d'autres, la précarité va être issue de la problématique migratoire, et ce qui est en grande partie aujourd'hui le public qu'on accueille dans nos structures. Des personnes qui quittent leur pays, qui arrivent sans argent et qui, au cours de leur demande d'asile ou à la suite de leur demande d'asile, se retrouvent avec ou sans ressources ou avec très peu de ressources. On a parlé du champ du handicap et j'aimerais aussi insister sur les troubles psychiques aujourd'hui qui amènent à la précarité. De plus en plus, l'augmentation de ces troubles psychiques dans notre société. Et aujourd'hui, on accueille de plus en plus de personnes, on le voit avec nos partenariats en interne, qui ont ces difficultés-là, qui ont ces troubles-là et qui ont pu perdre ce qu'ils avaient auparavant ou le peu de stabilité qu'ils avaient auparavant et tomber dans cette précarité. Donc voilà, vraiment je trouve la précarité très large, très différente les unes des autres, mais on se retrouve sur un point commun, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve à la rue et sans toit. Souvent, quand la précarité se lance, d'autres choses dans la vie des personnes, d'autres difficultés peuvent arriver. On lâche souvent tout ce qui est administratif. Mmh. On lâche tout ce qui est ressources. On perd le lien social, le peu de lien social qu'on a. Les amis, la famille, l'image de soi-même, toutes ces questions-là se regroupe et amène une personne vers cette détresse et vers ce champ du « je vais plus y arriver ». Quelques portes peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même la chance, et dans notre département de la Creuse en particulier, qu'il y ait peu de personnes à la rue. Et c'est une chance qu'il faut conserver et se battre pour la conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne en Creuse, par le biais du 115, par le biais des structures comme le CHRS, mais comme d'autres qu'il existe, et aussi en dehors des grands cycles institutionnalisés par l'État, il y a aussi d'autres associations, d'autres petites mouvances collectives sur notre territoire qui existent et qui permettent à des personnes de ne pas être là. Notre travail à nous, toutes ces personnes-là qui accueillons ces personnes, en plus de donner un toit, c'est de pouvoir essayer de penser toutes ces plaies avec la personne. Pour penser ces plaies, on a parlé du lien social, pour moi c'est le leitmotiv de notre travail. Que ça soit ici, mais que ça soit dans la société. Travailler ce lien social, travailler l'estime de soi, travailler la confiance en soi de la personne, sera la base, la tour du futur château fort qu'on va créer. Même si le château fort reste une image d'une vie, sans structure solide, le risque, et ce qu'on peut voir, et ce qu'on peut repérer aujourd'hui, c'est qu'il y ait des rechutes. Nous, notre idée, si on fait un travail de fond, c'est pas facile de pousser la porte de rentrer sur une structure collective comme la nôtre. Pas facile de se dire, j'arrive ici au milieu d'autres personnes, est-ce que c'est ma place? Est-ce que mes enfants que j'amène ici, est-ce qu'ils vont être à leur place? Est-ce que j'ai envie d'être jugé? Est-ce que j'ai envie qu'on connaisse tous mes problèmes? Est-ce que j'ai envie qu'on connaisse toute ma vie? Donc vraiment, l'estime, la confiance en soi, le travail de relation, ça va être la base de notre travail. C'est pour ça qu'en plus de travailler sur les différentes problématiques qu'on a pu évoquer, on va travailler aussi sur des choses plus légères, entre guillemets, qui vont être de l'animation, de la culture, la sociabilisation, voilà, se retourner vers l'autre et se montrer comme on est, avec nos qualités, avec nos difficultés, nos défauts, pour pouvoir retravailler le fond par la suite. On n'est bien sûr pas tout seul. Comme je le parlais, on a des partenariats en place qui nous permettent d'être accompagnés, pouvoir être aidé, de proposer aussi un panel très large avec des professionnels formés à toutes ces personnes qu'on accompagne. Je pense aussi aux associations caritatives qui sont très présentes et qui, sans elles, concrètement, on n'arriveront pas à subvenir à tous les besoins de ces familles-là. Voilà en gros ce que moi je peux dire sur, sur l'aide qu'on a envie de donner, qu'on nous donne l'opportunité de donner aussi au travers de ces structures-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est financé à 100% par l'État. Donc individuellement et en tant que citoyen, ça fait quand même réfléchir, c'est un choix de vraiment travailler dans ces conditions-là et dans ce fonctionnement-là. Alors on peut toujours faire mieux. On a toujours des projets pour s'améliorer, pour permettre, encore une fois, à ces personnes d'atteindre leur but et leur objectif. Mais il y a eu des constructions solides sur ces structures-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en capacité de permettre à certaines personnes de sortir de cette précarité. Voilà. Sortir de la précarité, c'est pas toujours simple. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie ne sont pas toujours prêtes. Le risque, c'est que le professionnel, l'humain, qui est à côté, veuille aller plus vite que la personne. Et c'est pas facile parce qu'on a nos envies et idéaux et idéologies personnelles. Et en face de nous, on a une personne, un être humain qui a les siennes, et qui sont peut-être différentes, ou qui peut-être ne mature pas comme le professionnel le voudrait ou comme le citoyen le voudrait, qu'elle prenne plus de temps, que nos choix et nos envies ne soient pas concordantes, en tout cas, à un moment T. En tant que citoyen et professionnel, la difficulté est d'accepter que l'autre peut penser différemment. Et que parfois, l'autre va prendre un chemin qui va nous déplaire. Et d'accepter ça. C'est-à-dire qu'on pense, du fait de nos expériences, par le fait de nos formations, etc., que la personne va aller vers un échec. Et peut-être que parfois l'échec va permettre aussi de rebondir sur une nouvelle dynamique. C'est frustrant pour nous, c'est parfois triste, parce qu'on s'attache bien entendu aux personnes avec qui on côtoie au quotidien. Mais c'est un travail d'acceptation à faire. Et pour moi, ce qu'on a pu se rendre compte aussi, ce que j'ai pu me rendre compte au travers de différentes expériences, pas à chaque fois, mais parfois il faut tomber plus bas pour pouvoir remonter plus haut. Et c'est ce qu'on a pu côtoyer parfois. Après le CHAS, après des structures comme le CHAS, c'est la rue. Il n'y a pas d'autres structures existantes. Il y a le 115. Voilà. Donc on est sur de l'hébergement d'urgence. Trois jours, on tourne entre différents abris de nuit. Voilà. C'est très compliqué. On est la dernière structure qui accueille des personnes, en Creuse, en tout cas officielle, qui accueille des personnes sans ressources. Donc on sait que quand quelqu'un part d'ici et qu'il n'y a pas de projet derrière, on est dans l'extrême précarité. Et parfois, après avoir chuté plus bas, on récupère les personnes qui connaissent notre fonctionnement, qui connaissent ce qu'on peut proposer aux personnes qu'on accompagne ici, et donc qui va permettre de reprendre un chemin et qui va se développer sur quelque chose de plus pérenne, parce que la personne est prête, parce que la personne a digéré peut-être aussi nous ce qu'on peut lui proposer, à accepter individuellement qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. Au travers de toutes les structures où j'ai pu passer, l'accompagnement il s'est étoffé. Ce qu'on propose aux personnes qu'on accompagne maintenant, il est structuré. Vous parliez tout à l'heure de l'importance des personnes, en fait, hein, elles-mêmes, qu'on puisse les écouter, les entendre. Aujourd'hui, notre pratique, elle se tourne autour de ça. Les lois de 2002, les lois de 2014, en tout cas, ont permis de mettre l'acteur au centre du dispositif, en tout cas c'est le souhait de cette loi. Aujourd'hui on parle beaucoup d'autodétermination, d'empowerment, tout ça, pour pouvoir d'agir. On est bien d'accord que sans la personne on ne peut rien faire. Sans la personne on ne peut rien faire. Donc les outils qui ont pu être créés, je pense aux projets personnalisés, à l'implication des personnes, au contrat de séjour, voilà, nous on tourne autour de ces outils-là dans les différentes structures où j'ai pu travailler. Elles sont la base de notre travail. C'est-à-dire qu'on ne pense pas pour l'autre, on pense avec l'autre. dans la construction de tous ces travaux, il y a des rencontres individuelles qui sont faites avec les personnes qu'on accompagne. Elles choisissent les thématiques sur lesquelles elles souhaitent travailler. Donc nous, on offre un panel de choix et la personne s'investit ou non sur cette thématique-là. C'est-à-dire que si elle ne le souhaite pas, on ne va pas y aller. Après, à nous, en tant que professionnels, de convaincre, d'argumenter nos idées, nos choix. Après, c'est à la personne de prendre ses décisions. La participation à des réunions collectives des personnes qu'on accompagne. Ah, voilà, c'est vraiment la responsabiliser, lui montrer que c'est elle qui fait ses choix, que nous, on est là pour la guider, pour l'accompagner, mais qu'on ne fera pas les choix à sa place. C'est la responsabiliser, de lui faire prendre confiance en elle et lui permettre de prendre des décisions pour elle et pour sa vie. On en revient à la discussion de tout à l'heure, à l'échange de tout à l'heure, sur l'acceptation d'un choix différent du nôtre. Voilà un peu ce que moi je peux vous dire. De manière plus générale, la précarité augmente dans notre pays, augmente en tout cas sur notre territoire, et si on parle du territoire creusois, on le voit aussi, la précarité qui existait peut-être moins dans, si on revient 60, 70 ans, 80 ans en arrière, dans les campagnes en tout cas. L'augmentation des prix, hein, l'inflation générale qu'on voit aujourd'hui n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est médiatisée, ça c'est une certitude, mais l'augmentation de tous les prix en termes alimentaires, en termes d'immobilier ou ces choses-là, c'est en tout cas moi personnellement quelque chose que je vois depuis que je suis né. Les difficultés de trouver un emploi stable, peut-être aussi l'évolution des mentalités sur le fait de choisir son emploi, de choisir le travail qu'on a envie de faire et de le faire dans la durée. L'évolution du coup de cette société crée de la précarité. La précarité, en tout cas le risque de précarité, crée de l'individualisme dans notre société. Et aujourd'hui, on le voit au quotidien, l'individualisme de notre société nous mange au quotidien. Pour éviter cette précarité, on préfère se retourner sur nous, c'est-à-dire se protéger individuellement, créer son schéma de protection. Quand on crée son schéma de protection, eh ben on laisse de côté les autres. Et cette solidarité, ce mouvement de solidarité, de cohésion, on le perd. Ce qu'on peut se rendre compte sur des personnes qui s'investissent dans leur travail, en tout cas moi je vais parler du travail social, de ce que je connais, de l'associatif, c'est peut-être ce que je connais le plus. On contacte toujours les mêmes personnes. Qui donne de son temps? Qui a envie aujourd'hui de donner de son temps en dehors de son travail, des choses obligatoires qu'il a à faire pour des réflexions collectives, pour la société? On comptera 80% les mêmes personnes. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément sur comment on va réussir à vivre sur plus tard, comment dans ce schéma individuel sur lequel on nous pousse, formation, emploi, maison, crédit, enfant. Comment on va faire pour sortir de ce champ-là? Et du coup, comment permettre à des gens plus précaires de vivre leur vie? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a dans sa vie rencontré certaines difficultés, qui se retrouve aux minima sociaux, par exemple, ou pour certains qui ne peuvent pas avoir les minima sociaux, je pense aujourd'hui aux personnes migrantes, et qui ne sont pas en capacité de travailler, parce que ça existe. Je sais pas, des personnes qui ne parlent pas encore français, des personnes qui ont des troubles psychiques qui ne leur permettent pas, qui ne sont pas reconnues encore dans le champ du handicap. Comment permettre à ces personnes de vivre dignement? Comment permettre à ces personnes de manger? Comment permettre à ces personnes d'avoir un logement? Et aujourd'hui, ces questions-là, elles sont de plus en plus empiriques. C'est parce qu'on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour ces personnes-là. Aujourd'hui, vous demandez à des personnes sur la problématique migratoire d'être en France pendant, certaines pendant 5 ans, sans accéder aux minima sociaux, avec pour certaines des grandes difficultés d'employabilité, comme je l'ai dit, par rapport aux Français, souvent avec des enfants en bas âge, sans moyen, on ne va pas mettre son enfant à la crèche. Donc toutes ces questions-là, j'ai l'impression que notre société crée cette précarité aussi. Donc voilà, moi c'est une grosse inquiétude plus au niveau sociétal. Ça m'inquiète, ça Vraiment, j'ai l'impression que ça s'empire. Alors, parfois, il y a des relents de collectivisme et de collectivité dans notre société et d'échanges et de partage. Je sais pas si moi aussi je commence à devenir pessimiste sur la question. C'est une probabilité. Voilà, un peu souffle.
D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser au niveau comment vous ressentez ce que ressent l'usager quand vous travaillez avec lui? Est-ce que vous avez un questionnement par rapport à ça?
Le ressenti est toujours dangereux. D'accord. Alors on en a tout le temps du ressenti, parce qu'on est des êtres humains, donc on pense. On peut avoir je peux avoir un ressenti du fait des expériences déjà rencontrées. Mais chaque individu est différent. Donc c'est pour ça où je veux être très vigilant sur ce point-là.
Comment vous faites ?
En échangeant. Alors, on est, comme je l'ai dit, on est des équipes quand on est dans le secteur social. Donc on peut échanger, on peut croiser nos avis, croiser nos regards, en fonction aussi de nos formations, de nos expériences, etc. Et la priorité, c'est la personne qu'on accompagne. Donc si on a des interrogations, si on a des questionnements, à nous aussi de nous les amener pour le laisser s'exprimer sur la question. Et comme on le disait tout à l'heure, ne pas penser à sa place. Un des risques de notre travail de travailleur social est de penser à la place de l'autre et de faire à la place de l'autre. On n'est pas parfait. On s'améliore de jour en jour. On se trompe. Et quand on se trompe, j'ai l'impression en tout cas, quand on se trompe, on s'améliore. Alors notre vigilance est de ne pas mettre à mal les personnes qu'on accompagne et du coup pas les mettre plus en difficulté. Mais voilà, se tromper, reconnaître son erreur et se questionner sur ce qu'on fait, notre pratique et comment faire améliorer notre pratique au quotidien, je pense que c'est un des leitmotifs, un de nos fonctionnements qui nous permet de ne pas s'enfermer en tout cas dans un mode de réflexion et d'évoluer au quotidien en fonction de notre public, de l'évolution de ce public-là et des questions plus générales et plus sociétales.
D'accord. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait le contrat, les projets de personnaliser, etc. Donc il y a comment dire, une discussion professionnelle sur l'usager. L'usager est présent du début à la fin dans ces réunions ça s'organise, ouais. Voilà.
Pour la réalisation d'un projet personnalisé en CHRS, en premier lieu, ce projet personnalisé, il n'est pas fait du premier jour de l'arrivée de la personne. On prend un temps d'une durée d'un mois, environ, pour se rencontrer, pour travailler, pour comprendre le fonctionnement de la personne qu'on va accompagner, et puis que la personne accompagnée aussi puisse, comme j'ai commencé, et cette confiance avec les professionnels, et ce lien de confiance qui est inévitable pour travailler du fond. Dans ce premier mois, en tout cas dans la deuxième quinzaine de ce mois, un travail va être réalisé entre un éducateur spécialisé qu'on appelle référent et la personne accompagnée, où il va être présenté cet outil du projet personnalisé et ils vont le co-construire. Donc travailler ensemble durant une quinzaine de jours sur un constat en fonction des systèmes travaillés et les possibilités, en tout cas les axes de travail à fixer. Donc vraiment c'est la personne qui co-construit avec l'éducateur, qui parfois l'éducateur lui va mettre en mots parfois les pensées des personnes. Tout ça donc est co-validé. Sans validation de la personne accompagnée, les sujets ne sont pas présentés. Ensuite, il y a une réunion collective d'équipe, où là, donc, ce projet personnalisé est présenté par le référent à l'équipe. Des questionnements peuvent arriver, des propositions d'autres choses peuvent arriver, d'autres choix, et il en est tiré des objectifs généraux. Une fois ces objectifs généraux proposés, la personne accompagnée est invitée à ce temps d'échange et ce temps de réunion, et lui est proposé de valider tous ensemble ses axes de travail. Parfois la personne souhaite apporter autre chose. Parfois elle refuse ce qui a été proposé pendant la réunion parce que ça ne lui convient pas. C'est la personne qui est le dernier. Voilà. Et après, tout le monde signe donc ce document et s'engage à respecter ce document. Voilà. C'est un peu notre ligne de conduite en tout cas, jusqu'à ce que ce projet personnalisé soit révisé.
Vous créez ainsi un lien de confiance avec la personne.
Un lien de confiance mais aussi un engagement.
D'accord.
Et l'engagement est important, c'est-à-dire que nous, on ne pourra rien faire sans les personnes. Parfois, quand on arrive ici, on nous dit, bah, ils vont nous trouver un logement. Vous allez nous trouver quelque chose. Non, nous, on ne peut pas travailler sans la personne et sans que la personne soit actrice de son projet.
Vous trouvez qu'il y a une évolution dans la prise en charge de ces personnes en situation de précarité au vu de votre expérience
En tout cas, moi je vais parler sur nos services, il y a une professionnalisation. Ce travail au plus proche de la précarité est difficile pour les professionnels. Il demande un engagement total. La précarité, elle est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, avec des amplitudes horaires importantes, les samedis, les dimanches, les jours fériés. Et du coup, il y a des renouvellements d'équipes qui sont quand même assez réguliers. La précarité, en tout cas, on ne va pas le cacher, hein. Le secteur précaire n'est pas nourri à la même enseigne que le secteur de champ du handicap en termes financiers, et donc les salaires sont aussi bien plus bas que dans le champ du handicap, par exemple. Ce qui crée peut-être aussi la précarité chez les professionnels, hein, et ce qui amène au changement, parfois, même si l'intérêt du travail était présent. Cette instabilité des professionnels crée de l'instabilité dans les accompagnements et demande des réajustements au quotidien pour pouvoir continuer notre accompagnement. En termes de, en tout cas de public, vraiment les publics ils ont évolué dans le temps. Je suis souvent revenu sur la problématique migratoire. Aujourd'hui, c'est 50% des personnes qu'on accompagne. Donc vraiment, cette problématique migratoire, elle est très présente sur notre département. Et il nous faut aussi du temps pour s'adapter à chaque population qui peut arriver, des quatre coins du monde, et qui ont des attentes, des connaissances, des compétences et des habitudes différentes des nôtres. Et pour ça, il faut qu'on s'adapte. On va pas travailler pareil avec une personne qui arrive du Sénégal et qui est francophone, avec une personne qui arrive du Pakistan et qui a une culture de vie totalement différente à la nôtre. On est encore dépourvu de plein de moyens sur notre département en termes d'adaptation à ces publics-là. Et c'est un gros manque, c'est-à-dire manque traduction, sur de la traduction pour être précis, pour être au plus proche des attentes des personnes. D'apprentissage à la gestion d'un logement. Bon, la plupart des personnes qu'on accompagne n'ont jamais vécu dans un appartement. Comment gérer le chauffage? Comment gérer la gazinière? Comment gérer ces choses-là? L'État est dans un plan quinquennal qui s'appelle le logement d'abord. Très bien. Le logement d'abord.
Le logement d'abord, oui.
C'est une très belle idée. Moi, je suis d'accord que tout le monde doit avoir son logement. Par contre, quand on n'a jamais géré un logement, quand on va dans un logement individuel, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a une assurance à prendre. On ne sait pas c'est pas du bouteille de gaz, c'est du gaz de ville. Ça arrive dans un tuyau. Voilà, toutes ces questions sont. Pour moi, on manque beaucoup, si on veut pérenniser en tout cas cette stabilisation, éviter cette précarité, il y a un gros, gros travail d'accompagnement dans le logement qui doit se faire. On le disait, en France, on a cette question, enfin voilà, l'évolution des publics, donc je parlais de ce public issu de la problématique migratoire. On a évoqué aussi les troubles psychiques tout à l'heure. Nos structures ne sont pas équipées, n'ont pas de plateau technique médical. J'en parle très souvent, mais c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique parce qu'on a beau être accompagné par des partenaires qui viennent quotidiennement, qui sont très disponibles et qui sont très compétents, sans parler de Sandrine, c'est un gros manque pour nous. C'est-à-dire que ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement quotidien, au niveau psychologique, ont besoin d'écoute. Alors certes, on a des travailleurs sociaux qui peuvent être formés aux prémices de la psychologie quand on fait des formations d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, ou des formations après plus individuelles. On peut avoir ce champ-là. Mais ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre qu'on rencontre une fois tous les 3 mois Vraiment, ce travail de fond, si on veut de la stabilisation, il faut que psychologiquement, psychiquement, on soit prêt, on soit accompagné. Quand on a vécu des troubles à l'étranger, des conflits, même des violences économiques, des difficultés de ce type-là, on a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même. Quand on a vécu à la rue, quand on a pu avoir des consommations de substances addictives, on a besoin de remettre ces choses-là à plat. Et pour ça, pour accepter cet accompagnement, on aurait besoin de l'avoir au quotidien.
Bon, moi j'avais plein de questions, enfin plusieurs questions, mais je vais vous les poser en dehors de l'enregistrement. C'est pas forcément par curiosité, non, c'est la question de médical et du psy, c'est important. J'avais aussi la question de l'arrivée, comment les personnes arrivent, de la durée, mais vous avez partiellement répondu. Et de la question de la sortie, vous avez aussi partiellement répondu. Et aussi le fonctionnement d'équipe, mais bon, je pense que dans ce que vous avez dit, on va s'y retrouver. Voilà. Bon, ben, merci, c'est super. Hein.
Ouais, merci beaucoup, monsieur Mignard.